du banc. Le podcast pour comprendre le jeu vous est présenté par PMU.fr.
Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le 31e épisode de la saison 6 de Vue du banc, un épisode qui sera consacré à deux matchs, les deux matchs importants du dimanche soir qui ont lieu simultanément. D'abord le Classico qui va occuper la majeure partie de l'épisode et ensuite on parlera forcément de OL Saint-Etienne. Pour cet épisode, mes deux compères comme d'habitude, Florent Tonuti, de Djibouti, de Chronique Tactique, etc. Salut Florent.
Salut Christophe.
Et Raphaël Cosmidis qui est actuellement en home de l'équipe au moment où nous enregistrons ce podcast. Bonjour Raphaël.
Salut Christophe.
Avec un article justement consacré au Classico, ça tombe bien, ça veut dire que non seulement il a vu le match, mais en plus il a déjà pu mettre ses pensées par écrit. Raphaël, qu'est-ce qu'on trouve dans cet article et qu'est-ce qui va guider notre podcast sur les enjeux majeurs de ce match?
La meilleure impression collective laissée par le Real Madrid sur l'ensemble de la rencontre, alors avec un vrai temps fort en deuxième période, à travers plusieurs aspects, à la fois la capacité à ressortir le ballon proprement, et à casser le minuscule pressing à la perte du Barça, qui ça a été vraiment un thème du match. La capacité, en deuxième période notamment, à aller presser haut, à récupérer des ballons au cœur du jeu avec Casemiro, avec des sorties de Ramos. Et puis ce côté gauche dominant, comme souvent, avec l'ajout des appels de Vinicius, des courses dans la profondeur de sa part. Ça n'a pas été l'initiateur, ça n'a pas été le créateur, mais en bout de chaîne, il a été présent. Pas forcément toujours efficace, mais il a eu tellement de situations qu'à la fin, ça a fini par un but.
Alors Florent, on va rembobiner pour les gens qui ont écouté le dernier podcast il y a quelques jours, parce que là on enchaîne pas mal. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau par rapport à ce qu'on a vu à la fois du Barça et du Real en Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'on a pu apprendre? Qu'est-ce que ce match-là a déjugé par rapport à certaines certitudes qu'on aurait pu voir sur le match précédent des deux équipes, voire même sur le premier Classico il y a quelques mois en début de saison avec un autre entraîneur du côté du Barça? Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf finalement?
C'est assez compliqué à dire parce que déjà moi j'avais pas vu le Real face à Manchester City, donc je peux pas vraiment comparer. Côté Barça, j'ai pas vu énormément de différence par rapport à ce qu'ils ont proposé face à Naples. Moi ce que j'ai retenu de ce match, c'est l'envie du Real de ne pas laisser le Barça s'installer, particulièrement en première mi-temps, c'est-à-dire que les Madrilènes ont toujours refusé de laisser le Barça arriver dans sa moitié de terrain et mettre en place son jeu de possession à 30-40 mètres du but adverse pour ensuite faire tourner, rester haut et s'installer. Toujours, dès qu'ils en avaient l'occasion, il y avait un Madrilène qui ressortait sur un temps de passe de manière à faire reculer le Barça, ce qui rendait le match assez rythmé parce que le Barça avançait, puis était obligé de reculer, puis repartait sous pression. Et en première mi-temps, ça a failli basculer côté Barça. Parce que il y a des situations où forcément si vous défendez toujours en avançant, à un moment donné, si le passeur est bon et qu'il y a un appel en profondeur, vous pouvez être pris dans le dos. C'est comme ça que les Catalans ont eu leur meilleure situation. Mais en deuxième, je pense que cette approche-là a fait finalement exploser le Barça qui, sur le plan physique, a tapé un petit mur quand même à l'heure de jeu. Mur d'ailleurs que le Real avait sans doute tapé vu ce que vous racontiez de ce match face à Manchester City quelques jours plus tôt.
Raphaël, est-ce que tu penses que l'échec face à City, au-delà du score, c'était quand même un match qui était relativement peu maîtrisé, est-ce que tu penses que ça a fait pencher et évoluer l'approche de Zidane pour un match face à un Barça qui a peut-être moins de certitudes, mais en tout cas a une approche qui se veut similaire dans l'utilisation du ballon?
Ça a changé quelques joueurs en tout cas, avec la rentrée de Kroos, la rentrée de Marcelo. Est-ce que j'en oublie un? Non, je pense pas. Il me semble que Vinicius, Benzema, Isco, c'était déjà la ligne d'attaque sur le match contre City. Donc ça a amené un peu plus de variété de ce côté-là. Je les ai trouvés un peu plus agressifs face aux sorties de balles adverses contre City. Ils n'avaient pas forcément cherché à beaucoup embêter City, qui d'ailleurs n'avait pas faux non plus forcé dans ce domaine-là. Il y a vraiment eu cette envie, comme l'a dit Flo, de ne pas laisser le Barça s'installer. Ça, c'était en deux parties. C'était d'abord de prendre quasiment en marquage individuel les milieux du Barça quand le Barça cherchait à construire. Donc ça a donné beaucoup de responsabilités à Ter Stegen, qui a souvent dû allonger ou casser des lignes directement par ses passes. Ce qui crée du coup des temps de passe longs, parce que pour que Ter Stegen trouve le latéral ou pour qu'il trouve un milieu ou un attaquant sur la troisième ligne, c'est un temps de passe long et ça permettait à Casemiro, Sergio Ramos de lire ce temps de passe et d'intervenir. Et c'est comme ça que le Real a récupéré quelques ballons. Ça, c'était assez intéressant. Puis, comme l'a dit Flo en deuxième partie, cette capacité à empêcher le Barça de s'installer avec, je sais pas si vous avez vu les chiffres de possession du Barça de Setién depuis l'arrivée de Setién, Je l'ai jeté un œil un peu, je l'ai mis dans l'article. Depuis l'arrivée de Setién, ils n'étaient jamais descendus sous les 67% de possession de balles sur tous les matchs qu'ils avaient disputés. Là, au Bernabeu, ils n'ont eu que 56%. Le Real a quasiment réalisé 500 passes. Donc c'est assez énorme quand même quand on affronte le Barça. Et en termes de tir aussi, le Real l'a emporté 13 contre 9. Alors pas forcément des positions aussi bonnes que celles du Barça. Mais en tout cas, il y a eu plus de situations même pour le Real, qui a parfois eu des 3 contre 3 ou des 4 contre 4 qui ne se sont pas terminés par un tir.
Justement, Florent, je vais terminer mon comparatif avec les matchs du milieu de semaine. Est-ce que dans l'approche, le Real a fait quelque chose que Naples aurait potentiellement pu faire dès le début du match au lieu de garer le bus devant le but? Ou alors ça demandait des caractéristiques soit techniques, je ne sais pas, pour ressortir les ballons, soit physiques pour couvrir certaines zones, qui fait que c'est en gros une approche un petit peu plus ambitieuse qui réservait à une équipe de très haut niveau et que Naples n'aurait pas forcément été en mesure de faire?
Bah, il fallait vraiment des certitudes et encore... Pas forcément des certitudes, parce qu'il y a eu des ratés en première mi-temps. Notamment, je crois que c'est sur l'action où Messi, sur une passe de Busquets, t'as Ramos et je pense que c'est Casemiro, le deuxième, qui veulent avancer en fait sur des joueurs qui sont devant eux, alors que le Barça est en train de revenir vers Busquets justement, et là Busquets prend tout le monde de court en jouant dans le dos. Mais bref, il faut des joueurs, oui, qui soient très bons dans l'anticipation, qui soient capables de sortir et de pas se rater s'ils font ce genre de sortie. Je sais pas si Naples derrière, il y avait Manolas et Koulibaly. Je sais pas si ce sont des joueurs qui ont l'habitude de vraiment sortir de la ligne défensive pour à la Ramos, en fait. Et à ce niveau-là, je sais pas si Naples en aurait été capable. Voilà, tout simplement. On verra au match retour, parce que je ne serais pas surpris qu'il s'en inspire, par contre, pour essayer de faire quelque chose au Nou Camp.
D'ailleurs, c'était même pas Koulibaly, c'était Maximovic qui était avec Manolas, qui, sur cette saison, est peut-être pas inférieur à Koulibaly, mais qui, intrinsèquement, a quand même moins de qualité. Donc, Raphaël, si on se concentre vraiment sur ce match-là, qu'est-ce qui bascule entre la première et la seconde période qui fait que la dynamique s'inverse entre les deux équipes, à l'inverse du match face à City, où là, c'était plutôt le Real qui avait faibli en seconde?
Bah, le Real, à partir de la 55e, 60e, a vraiment récupéré le ballon haut très régulièrement pendant 10-12 minutes. Je pense entre la 58e et entre le but de Vinicius, finalement. Il y a eu un nombre de récupérations hautes et une difficulté pour le Barça sur ces récupérations basses de les transformer en sortie de balle vraiment, vraiment assez forte. Casemiro gratte plusieurs ballons, Ramos gratte plusieurs ballons en sortant assez haut. Vinicius intervient sur un temps de passe, il récupère un ballon. Carvajal sort un moment très très haut sur un décrochage de je ne sais plus qui d'ailleurs, mais il récupère le ballon assez haut. Et du coup, les sorties de balle du Barça avec une équipe très écartée, très agrandie, avec un Ter Stegen qui prend beaucoup de risques, se sont souvent transformés en des récupérations hautes pour le Real qui a pu s'installer comme ça dans le camp adverse. Pas forcément à travers des séquences de possession et de préparation très longues, mais en tout cas à travers une présence répétée et des séquences après 2, 3, 4, 5 passes pour essayer de trouver un décalage. C'est sur une séquence comme ça que Vinicius part dans le dos de Braithwaite à la 71e. Donc il y a eu cette domination, aussi bien en termes d'intensité que de pressing à partir de cette deuxième période, qui a fait que le Real a pu enfin transformer ces situations en occasions de but. C'était pas forcément le cas en première période où je pense que le Barça finalement a les plus grosses occasions. Mais là, pour le coup, ils ont profité de cet aspect-là, de cette domination au cœur du jeu, pour l'emporter. Alors on peut parler de la faiblesse technique de Vidal sur ce match qui perd quand même 4-5 ballons très dangereux. Arthur qui se fait avoir 2-3 fois aussi où il y a un ballon qui est gratté dans ses pieds. Et cette neutralité finalement du milieu barcelonais, où Frenkie de Jong certes a apporté quelque chose un peu techniquement, mais en dehors de Busquets, il y a eu très peu quand même de séquences où un de ces joueurs-là a réussi à jouer vers l'avant, à prendre un risque, à se retourner, et finalement à casser ce pressing madrilène entre, je te dis, la 57e, 58e et le but de Vinicius.
Florent, c'était quoi les animations des équipes? Parce que là, si tu regardes sur SoccerWay, etc., ça annonce une espèce de 4-5-1 du côté du Real et un 4-4-2 à plat du côté du Barça. Comment est-ce que ça a évolué selon que les équipes aient le ballon ou pas? Qui est-ce qui dézonnait? Est-ce que Vidal était bien ailier droit comme ça annonçait?
Non, Vidal rentrait intérieur. Enfin, c'était un petit peu dans la lignée de ce qui avait été fait face à Naples. Évidemment, il restait pas à droite. Le couloir s'ouvrait pour était ouvert pour Semedo qui devait monter comme Alba devait monter de l'autre côté. Après, le truc c'est que le Barça a pas pu s'installer comme je le disais tout à l'heure, comme il l'a fait face à Naples. Donc, t'as pas forcément vu les mêmes séquences de jeu que mercredi ou mardi en Ligue des Champions. Et après côté Real, ça jouait quand même beaucoup la transition, ça allait très très vite vers le côté gauche et vers Vinicius, puisque de toute façon à droite il n'y avait pas de pendant à Vinicius, donc on penchait à gauche d'ailleurs en termes de dribble sur l'ensemble du match. Quand Messi ou Arthur sont les deuxièmes avec 5 dribbles tentés, Vinicius termine à 12 dribbles tentés sur l'ensemble du match. Donc tout est vraiment passé par lui côté Real. Bon, justement, il n'en réussit que 4. Donc ça montre bien aussi qu'il a quand même pas mal gâché, comme le disait Raphaël tout à l'heure. Mais voilà, côté Real, on jouait assez direct. Et côté Barça, on essayait d'installer quelque chose, mais on avait beaucoup de mal pour le faire avec ce manque de profondeur qui a une nouvelle fois été criant, d'autant plus que le Real, de par son approche et son envie de défendre toujours en avançant, pouvait laisser des espaces en profondeur. Encore aurait-il fallu qu'il y ait des appels.
Raphaël, est-ce que ça a essayé un petit peu plus d'attaquer Carvajal, comme l'a fait City, qu'il avait vraiment ciblé? Ou est-ce que, en gros, tu prenais ce que l'adversaire t'offrait, et si la ligne de passe était de l'autre côté, bah, tu cherchais pas forcément à insister sur ce point a priori faible de l'équipe madrilène?
Je t'avoue que j'ai pas vraiment compris ce que le Barça cherchait à faire offensivement. Il y a eu beaucoup de séquences de possession, mais dans la profondeur, vraiment dans la pénétration, il y a eu très peu d'idées, très peu de tentatives. Messi a été bien cadré, bien contrôlé par Casemiro et Ramos. Il a dû décrocher loin, Casemiro le suivait. Entre les lignes, Ramos sortait sur lui. Alors, il a réussi à partir une fois dans son dos, là, il a une grosse occasion en première période, parce que Ramos le colle justement. Mais en dehors de ça, l'inspiration dans le jeu du Barça, on ne l'a pas beaucoup vu. Et Griezmann a quelques ballons lancés dans la profondeur, mais pas forcément dans des conditions où il peut après aller jusqu'au but, surtout suivi par Varane. Franchement, le projet offensif du Barça était jusqu'aux 50-60 mètres. Et après, dans les 30 derniers mètres, je n'ai pas souvenir de séquences très construites, très travaillées, où ça fait des différences. Alors, il y a, comme d'habitude, quelques courses dans la profondeur de Jordi Alba. Et d'ailleurs, c'est de là que viennent les occasions les plus importantes pour le Barça. Un centre en retrait pour Griezmann. Centre en retrait qui était d'ailleurs peut-être pour Vidal, mais qui est coupé par Griezmann. Et dans un deuxième temps, je crois qu'il est lancé dans la profondeur et il essaye de se tenter en retrait, et puis c'est dévié en corner. Mais en dehors de ça, côté droit, Semedo a eu peu de situations. Je ne pense pas qu'on l'ait vu influer sur la rencontre. Griezmann, peu de ballons aussi dans des situations intéressantes. Pas forcément beaucoup de courses de Vidal dans la profondeur. Donc tu tombais assez vite dans un projet neutre où ça faisait circuler. Mais sans forcément menacer le Real, que ce soit entre les lignes ou dans le dos. Et ça a été c'est un problème assez sétiennesque de voir une équipe comme ça capable de répéter des passes sans forcément aller vers l'avant. Et c'est pour ça que le jeu du Real a paru beaucoup plus dynamique que celui de son adversaire.
Florence, ce qui est intéressant, c'est que souvent les entraîneurs disent que la phase préparatoire, en gros, tu bosses ça jusqu'à une fois que tu arrives dans les 30 derniers mètres adverses. Et ensuite, une fois que tu arrives dans les 30 derniers mètres, ça se passe majoritairement sur l'intuition des joueurs. Mais j'ai l'impression quand même que la manière dont Setienne structure son équipe fait que malgré tout, c'est pas la liberté qui est là dans les 30 derniers mètres adverses, et pas du tout la même que Valverde, parce que tu n'arrives pas dans cette 30 dernières rations des joueurs, parce qu'ils sont tous un petit peu au même endroit, et qu'ils font tous un petit peu la même chose, et que c'est difficile d'avoir l'espace justement pour briller.
Bah, ça revient à ce qu'on disait après le match contre Naples, hein, c'est-à-dire qu'il y a, deux problèmes dans cette équipe aujourd'hui, dans les 30 derniers mètres. Déjà, le fait, quand tu dis que les joueurs sont un petit peu tous au même endroit, ça revient à ce que je disais après le match justement face à Naples, où je posais la question de Messi dans ce système-là, où il a en effet beaucoup de joueurs autour de lui, mais justement il a peu d'espace ensuite pour s'exprimer, là où Valverde lui mettait aucun coéquipier pas loin et créait un maximum d'espace pour éviter d'avoir des joueurs, enfin trop de joueurs autour de lui, à part des adversaires, il se débrouillait tout seul. Là il y a du monde autour de lui, mais c'est, il y a moins d'espace pour faire parler les qualités qu'il montrait, donc il faut qu'il s'adapte à ça, je pense. Après, à côté de ça, il y a aussi le fait que l'équipe n'est pas forcément construite aujourd'hui. Déjà, l'effectif est très réduit à cause de toutes les blessures, etc. Mais il y a aussi, je pense, un problème de complémentarité entre les joueurs, et c'est-à-dire sur le terrain, sur ce match-là. Un joueur comme De Jong ne joue pas dans sa zone préférentielle. Un joueur comme Messi, je me pose la question, justement ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Un joueur comme Griezmann n'a pas l'air de vouloir s'y mettre dans cette position-là. Vidal n'est pas dans sa position préférentielle aussi côté droit. Arthur peut-être. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs à contre-emploi et surtout assez peu de profils qui sont changeant et qui pourrait apporter et qui pourrait apporter dans les 30 derniers mètres, apporter des choses différentes et notamment apporter cette profondeur qui manque tant à leur jeu, comme la profondeur d'ailleurs pouvait manquer au jeu du Bétis de Sétienne la saison dernière. On en avait parlé notamment lors du match face au Stade Rennais.
Raphaël, qu'est-ce que tu penses du côté asymétrique? Alors là, il y avait notamment Vinicius d'un côté, Valverde de l'autre. Du coup, le Real n'avait pas exactement les mêmes armes selon par où c'est attaqué. Du côté du Barça, pareil, si tu mets Vidal sur un côté, c'est pas exactement la même chose que si c'était un joueur beaucoup plus dans la percussion. Est-ce que tu vois une tendance, là, c'est un truc un peu plus macro, mais une tendance générale dans l'asymétrie dans le foot actuel? Plus qu'il y a quelques années, et qu'est-ce que selon toi ça apporte? Est-ce que c'est véritablement pertinent, ou alors est-ce que c'est une adaptation temporaire, genre bon bah il y a Alba d'un côté donc il faut mettre un profil plus défensif pour le gérer, en gros une espèce de réponse finalement que t'aurais au fait que dans pas mal d'équipes il y a un latéral qui peut être plus offensif que l'autre, donc du coup tu vas mettre une sorte d'ailier plus défensif que l'autre, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui si même Deschamps l'a utilisé avec Matuidi d'un côté et Mbappé de l'autre, fait que ça va devenir un peu un truc général où toutes les équipes auront tendance à avoir cette asymétrie?
Après, souvent, ça découle du fait que tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain et selon leur profil, leurs caractéristiques, ça va créer une asymétrie. Je prends l'exemple du Real. À partir du moment où tu te dis, bon, dans l'équipe, il nous faut Marcelo, il nous faut Benzema, il nous faut Isco, forcément, tu vas pencher à gauche parce que au-delà de Marcelo qui est déjà positionné côté gauche, Isco et Benzema préfèrent s'exprimer dans cette moitié-là, en termes de côté gauche, côté droit, dans cette moitié-là que de l'autre côté. Donc forcément, tu vas créer une asymétrie. D'ailleurs, au Real, ça fait des années, je ne sais pas, depuis qu'Isco et Benzema sont là finalement, que le Real penche à gauche. Et à l'opposé, bah, maintenant, tu as Valverde qui s'exprime dans du 1 contre 1, qui parfois joue avec Carvajal et fait un 1-2 dans la profondeur. Mais j'ai l'impression que ça découle autant des réflexes naturels des joueurs, de leur instinct, que d'un plan prévu par l'entraîneur et vraiment travaillé. Alors, tu peux l'avoir, certes, comme tu le dis, sur le plan défensif, où vraiment, quand le Barça jouait avec Abidal, latéral gauche, c'était quasiment plus un troisième central qu'autre chose, parce que ça permettait à Daniel Vest d'occuper le couloir droit, tu pouvais avoir un joueur qui occupait la largeur à gauche, et à l'intérieur, ça créait de l'espace un peu pour tout le monde. Là, pour le coup, que ce soit pour le Barça ou le Real, je suis pas sûr que ça fasse autant partie d'un projet sur le plan défensif. Matuidi sans doute plus avec le côté Mbappé, où Mbappé travaillait moins. Mais c'est difficile de faire la différence entre est-ce que l'entraîneur vraiment utilise ou incite cette asymétrie parce que ça va lui permettre de compenser, de corriger certaines choses tactiquement, ou est-ce que c'est une asymétrie qui vient tout simplement des réflexes des joueurs et que le coach, de toute façon, que ce soit des consignes ou pas, ne peut pas aller un moment à contresens par rapport à ce que ces joueurs aiment faire.
Florent, toi qui bosses dans du foot de haut niveau pour une sélection, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, ce côté qu'il peut y avoir asymétrique avec certaines zones qui vont être vraiment ciblées et d'autres beaucoup moins par rapport au système genre 4-4-2 classique où les deux ailiers faisaient la même chose, voire 4-3-3 où les deux ailiers étaient pareils, un peu dans le même registre et ça donnait autant à droite qu'à gauche? Comment est-ce que tu vois cette évolution, si tant est que ce soit une évolution, mais en tout cas, le fait que certaines équipes de haut niveau jouent comme ça, est-ce que c'est, là par exemple, vraiment ciblé, enfin vraiment alimenté Vinicius en ballon et souvent attaqué du même côté, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse en tant qu'analyste, en tant que téléspectateur?
C'est surtout une adaptation par rapport aux joueurs, c'est pas forcément une mode du moment, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de systèmes qui utilise cette asymétrie tant aussi sur le volet défensif, c'est-à-dire on va attaquer en 3-4-3, on va défendre en 4-4-2 et d'un côté on aura un vrai piston, de l'autre côté ça sera un ailier qui sera côté gauche en phase offensive. Je prends le cas de Bordeaux, mais le PSG l'a fait, Tuchel l'avait fait à Dortmund, enfin c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années, mais c'est surtout pour coller aux qualités des joueurs, c'est-à-dire que quand t'es le Real, comme le disait Raphaël, si t'as Kroos, Isco, Marcelo, Benzema, tu vas forcément pencher côté gauche parce que ils vont y aller à gauche. Donc autant insister de ce côté et faire en sorte que ces joueurs-là, qui sont tes meilleurs techniciens, s'expriment dans les zones qu'ils préfèrent. Et je préfère ça justement à la relative symétrie du Barça de l'autre côté, mais qui fout des joueurs dans des situations qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas ou dans laquelle ils ne sont pas dans une situation très confortable. Voilà.
Si on passe aux individualités, Raphaël, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, soit point positif, soit point négatif?
On va commencer par les points positifs. Benzema encore très bon et très juste dans son jeu. Alors, il n'est pas décisif à proprement parler, mais il est quand même à la base de pas mal des séquences et des séquences de construction réussies du Real. Isco encore bien. Alors, à un moment, je me suis demandé, mais c'est vrai qu'à une époque, Isco ne jouait plus au foot. Vous vous rappelez de cette époque? Le Real, il est pas bien et Isco ne jouait pas.
Oui, je m'en souviens très bien, moi j'étais très triste.
Ça paraît fou aujourd'hui. Bon, Vinicius présent, omniprésent, alors omni-gâchis parfois, mais intéressant quand même par ses courses dans la profondeur, tu vois. On parlait du manque de profondeur du Barça. Limite, l'entrée de Braithwaite fait du bien, il peut ouvrir le score sur son premier ballon, et de l'autre côté, Vinicius a apporté toute cette profondeur que Benzema apporte moins parce qu'il décroche, que Isco apporte moins. Et ça équilibre assez bien l'équipe sur décrochage et prise de risque dans la profondeur. Sinon, Casemiro, pas mal. Ramos sort un gros match. Dans l'ensemble, les joueurs du Real ont été bons. Hein. Même Marcelo fait un bon match. Alors, ils n'étaient pas mis en grande difficulté par la phase défensive du Barça. Mais bon match de la plupart des joueurs du Real. De Courtois aussi. On se moquait un peu de Courtois il y a quelques mois. Là, il faut avouer que cette saison, il est très performant. Et les performances négatives, elles sont plus à trouver du côté du Barça, avec des Umtiti, avec Messi bien contrôlé. Voilà, d'autres joueurs qui ont été un peu neutres. Mais il n'y a pas forcément de. Je pense pas qu'il y ait une performance côté Barça où je me suis dit, ah, quel match. Peut-être Ter Stegen qui en sort quelques-unes quand même et qui, dans le jeu au pied, a dû peut-être être le joueur qui a fait le plus avancer le Barça en dehors de Busquets. Mais pas forcément d'autres performances transcendantes.
Ter Stegen qui prend deux fois le même but. Piqué l'aide pas sur la première, mais c'est assez. Après, est-ce que tu as forcément le réflexe de couvrir ton poteau sur la deuxième? Je sais pas, même si tu te dis que c'est Mariano et que forcément il va tirer parce que Mariano tire tout le temps. Mais je vais dire que ça
Après,
gâche son match, mais c'est un
à
peu.
sa décharge, le premier, je pense que s'il n'est
Oui.
pas dévié par Piqué, il est dessus.
Ouais,
Et
c'est limite, je pense qu'il est dessus. Ouais.
deuxième, Marino rate sa conduite de balle et frappe en étant complètement déséquilibré. Ça fait un rebond qu'il n'avait pas prévu et ça part sur son côté. Et puis c'est un choix dans l'absolu un peu idiot parce qu'il y avait vraiment un joueur en retrait dispo. Et si Marino marque pas, je pense qu'il se fait victimiser dans le vestiaire après. Mais c'est quand même deux tirs où il est en contrôle de ce qu'il peut contrôler. Il y a des événements un peu contraires qui viennent l'embêter.
Ouais, en fait, le seul truc sur le deuxième but, sur le premier, je suis d'accord, il peut pas grand-chose. Sur le deuxième, c'est que tu sais que c'est Mariano et que Mariano fait très peu de passes.
Oui.
Qu'il a une conduite de balle parfois à la Emmanuel Denis de Bruges.
Mais est-ce qu'il se souvenait de qui Mariano était? C'est ça aussi.
Mais tu sais que moi, donc je bossais, donc je suivais pas le match, et j'ai eu l'alerte du deuxième but, et j'ai vu Mariano, enfin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que même Mariano était sur la feuille de match et jouait, quoi? C'était étonnant, ça m'a rappelé l'époque où Refren avait marqué le cinquième but, où tu te dis, oui, bon. Au-delà du but, il est rentré juste pour le troll, quoi, pour le délire de dire, tiens, on était tellement au-dessus qu'on a fait rentrer Refren. Donc c'était assez rigolo. Sur les individualités que Raphaël a évoquées, Florent, est-ce qu'il y en a une sur laquelle tu veux t'arrêter plus particulièrement?
Non, pas forcément. Après, le match de Griezmann est encore assez problématique, à mon sens. Parce que il y a notamment une séquence en tout début de match où il fait une course latérale alors que s'il prend la profondeur. Alors certes, le Real essaie de le mettre hors jeu, mais il est censé être capable de voir ça et de se repositionner. Il fait une course latérale alors qu'il peut être lancé en profondeur et se présenter contre Courtois. On est vers la 6-7e minute de jeu, donc on est d'entrée. Et tu comprends assez vite qu'il va encore être à l'envers sur ce match par rapport à ce que le jeu attend de lui en tout cas. Et côté Real, le match de Casemiro quand même, qui a été assez complet dans son registre habituel évidemment, mais aussi capable de mettre l'équipe dans le bon sens à la récupération. Donc voilà, après globalement, Raph a plutôt bien fait le tour et c'est vrai que côté Barça, c'est assez gênant de voir tous ces joueurs, tous ces talents, notamment au milieu de terrain, rester aussi neutre, à l'exception peut-être de Busquets qui a fait le taf comme il le fait depuis que Setién a pris l'équipe.
Raphaël, j'ai envie de te lancer avant de passer sur l'autre match, sur un mini débat concernant Vinicius, joueur que moi j'ai tendance à voir un peu comme un Dembélé, c'est-à-dire tu sens qu'il a beaucoup de qualités intrinsèques sur voilà la vitesse, l'explosivité, la capacité à dribbler qui est quand même un truc assez inné. C'est difficile d'apprendre à dribbler dans cet art de la tromperie en face à face, mais qui a un problème dans la technique de tir. Là, pour le coup, visiblement, il a fait les efforts sur ce match-là, donc c'est déjà quelque chose d'intéressant sur le plan défensif, parce que tous les talents ne le font pas forcément. Comment est-ce que tu le juges? Parce que Vinicius, c'était sa troisième titularisation depuis octobre. Il en avait une face à l'Espagnol et une face à Bilbao en décembre. Et depuis, il n'avait plus été titulaire en championnat. Alors, il avait été relancé là en Ligue des Champions dans la semaine. Mais bon, il n'a que 19 ans, mais il avait presque pris du retard par rapport à Rodrigo dans la hiérarchie. En tout cas, il était un petit peu loin de la hype qui avait pu accompagner ses premiers pas l'an dernier quand il était arrivé depuis le Brésil. Est-ce que tu penses que ça peut devenir un très très bon joueur? Est-ce que ça va rester quelqu'un d'irrégulier? Moi, je t'avoue que là, pour l'instant, sur ce que je voyais, je me disais, bah, c'est bien, chaque fois, il fait des différences, mais il tue les différences qu'il fait. Donc, du coup, est-ce que c'est véritablement un joueur typé pour le Real, ou alors est-ce que c'est pas un petit peu trop comme marche pour son
Après,
niveau actuel?
est-ce que tu te rappelles de Sterling à 19 ans?
Bah, toi, tu te rappelles mieux que moi parce qu'il était à Liverpool, mais.
Il croquait énormément aussi. Alors, il était sans doute plus varié et plus fin techniquement parce qu'il pouvait jouer dans l'axe et notamment en pointe du losange de Rodgers à une époque, mais il y avait énormément aussi de choix frustrants en fin d'action. La Vinicius a quand même une qualité qui devient de plus en plus rare, c'est qu'il sait bien attaquer la profondeur. Et est-ce que Dembélé sait aussi bien attaquer la profondeur, tu vois?
Non, je pense pas.
Dembélé est plus un joueur qui va recevoir dans les pieds, un contre un, je regarde ce que j'ai réussi, ce qu'il y a au centre après mon dribble, et puis je fais mon choix à ce moment-là. Vinicius a au moins cette qualité-là d'être capable de partir dans le dos, et c'est un truc qui peut lui permettre déjà d'éviter de devoir jouer un contre un à chaque fois. Parce que certes, il a la vitesse, mais il n'a pas forcément un registre très 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 varié, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu au moment d'éliminer un contre un. Souvent, ça va faire une feinte de corps, pousser et courir derrière. Là, pour le coup, quand il part dans le dos, il a plus ça à faire, et c'est ce qui lui permet de marquer le but du 1-0. Sur le plan juste technique, une fois qu'il a le ballon, je ne suis pas un énorme fan, mais dans le mouvement et ses qualités de vitesse, ça reste quand même très intéressant. Après, tu vois, tu enlèves Benzema de l'équipe, tu mets un attaquant qui a besoin que les autres construisent pour lui et pas l'inverse. Je pense que c'est un joueur qui peut être très énervant, mais là, dans la configuration du Real actuel ou dans une équipe où il y aurait, je sais pas, Firmino en 9 ou un autre joueur qui est capable d'orienter, de faire jouer les autres, je pense que c'est un joueur assez pertinent.
Juste comme ça pour situer l'année de ses 19 ans, Sterling met 9 buts. Là, Vinicius a mis 2 buts la saison dernière et là, c'est son deuxième but cette saison. Donc, alors il joue un petit peu moins. Il a peut-être les mêmes défauts, mais il y a un petit manque de réalisme quand même, hein, une production offensive qui est moindre chez Vinicius. Après, on l'interprète comme on veut, mais juste voilà pour situer sur la comparaison. Sterling était frustrant, il était quand même un petit peu plus efficace face au but, même si, comme je disais, il était plus souvent titularisé, puisqu'il a 24 titularisations sur l'année de ses 19-20 ans. Allez, dernier point, je ne sais pas si ça t'intéresse d'en parler, mais j'ai quand même envie de te lancer là-dessus, Florent, sur Umtiti, où j'ai beaucoup de réserves sur le fait qu'il ait été relancé par Setién. Alors je pense que c'est parce qu'il a une qualité supérieure avec le ballon par rapport à l'anglais, mais pour moi l'anglais donnait quand même globalement satisfaction. Et depuis qu'Umtiti est de retour comme titulaire, il y a peut-être un match où il a été bon, et encore c'est quand l'adversaire attaquait peu. Alors c'est pas Ibar, c'est un autre match, je ne sais plus lequel, mais remporté facilement parce qu'Ibar il rentre, mais le match est déjà plié. Mais sinon j'ai quand même beaucoup de mal sur sa capacité à bien défendre en fait, et parfois à faire certains gestes défensifs assez basiques. Alors Raphaël en off nous faisait une comparaison avec Dejan Lovren. Sur certaines attitudes, c'est peut-être un petit peu difficile, mais globalement, je le trouve quand même vraiment à la peine, et je vois pas trop en quoi sa capacité à ressortir le ballon sous pression, à bien l'utiliser, justifie complètement sa titularisation vu ce qu'il peut te coûter de l'autre côté du terrain.
Ouais, surtout par rapport à l'anglais, surtout que devant lui, il y a des milieux de terrain qui sont largement capables de se substituer à un défenseur qui serait moins porté vers la conduite de balle et vers l'avant. Et c'est vrai que quand tu vois ce que Mariano lui met sur la touche, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que son retour dans l'équipe, en effet, tu peux le justifier par ce que tu as dit sur sa capacité à relancer, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs devant lui qui sont capables de le faire. Je démords pas du fait qu'un De Jong serait beaucoup plus à l'aise sur les phases de possession du Barça s'il était à la place d'Umtiti que dans cette position très avancée qu'il a encore tenue face au Real Madrid. Après, bon, faudrait animer les choses différemment et ça serait un petit peu asymétrique justement. Mais oui, c'est vrai que défensivement, ça reste très compliqué. Et là, face à une une adversité qui n'était pas énorme. Il a suffi de un ou deux duels à jouer, et surtout celui avec Mariano. Et tu as pu voir encore une fois ses limites actuelles. C'est vrai que pour changer de rythme, il a l'air beaucoup plus en difficulté qu'il ne l'était il y a quelques temps.
Raphaël, le match du dimanche soir que tu as vu en replay, alors au moins une partie, je ne sais pas ce que tu as exactement suivi, juste avant l'enregistrement. Première période de Lyon-Saint-Etienne. Donc tu as vu, je pense, la phase où Lyon dominait le plus. Moi, j'ai suivi ça, mais un peu en filigrane, tout en faisant autre chose au boulot. J'ai quand même en tête la stat de, je sais plus, je crois que c'est 68 passes réussies contre 5 pour Lyon au bout de 7 minutes 30. Ce que je trouve assez fabuleux de réussir 5 passes en 7 minutes et quelques du côté stéphanois. Sur cette mi-temps que tu as vu, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et ensuite on en sera Florent qui pourra comparer ça avec la deuxième.
Bah, que ça fait plaisir de voir Lyon bien jouer et dominer ainsi, et que le duo Aouar-Guimarèche s'entend déjà très bien et je pense peut être le visage et le cœur de, à la fois le cœur et le cerveau de cette nouvelle équipe, parce que elle a quand même beaucoup changé entre les mercatos depuis quelques temps et les changements de coach. Franchement, si tu arrives à construire autour de ces deux-là et que tu mets en place autour d'eux des joueurs et des mécanismes et des principes qui vont les mettre en avant et les faire fonctionner, ça peut être très bien. Ça a même rendu un Touzard assez intéressant dans un rôle de chasseur matuidesque, comme Florent va peut-être nous en parler et le développer. Mais vraiment, ça peut être un peu comme à l'époque, il y avait, alors, à toute proportion gardée, il y avait le Thiago Motta Verratti qui était le visage du PSG. Là, je pense que Aouar Guimarèche, ça peut l'être aussi, et les voir proches l'un de l'autre à l'intérieur, j'ai trouvé ça intéressant. Plutôt que, même s'il est très bon aussi sur le côté, plutôt qu'exiler Aouar côté gauche et le mettre assez loin de Guimarèche, les mettre proches l'un de l'autre. Alors déjà, je trouve que visionnage télé, il y a quand même beaucoup d'attitudes où s'il n'y a pas le numéro, c'est difficile de les reconnaître, parce qu'ils ont les mêmes déplacements, parfois les mêmes gestuels, tous les deux droitiers, même gabarit, donc c'est un peu difficile. Mais du coup, tu sens que ça s'entend déjà très bien, et quand c'est aussi récent et qu'ils ne se connaissent depuis pas longtemps comme ça, c'est juste que ce sont deux très bons joueurs de foot qui ont les mêmes réflexes, et ça a rendu Lyon plutôt intéressant sur cette première période. Après, j'ai pas vu la deuxième, où apparemment ça s'est endormi un peu.
Florent, est-ce que ça s'est endormi en deuxième?
Eh bien, je ne sais pas, parce que je n'ai vu que la première mi-temps, moi aussi.
Ah, bah, c'est
on
magnifique.
On regarde que les bonnes périodes.
Ouais, voilà.
Bon, on va rester sur la première période, alors. Je vais un peu réitérer l'angle des premières questions sur le match Real-Barça. Qu'est-ce qu'il y a de différent du côté lyonnais par rapport à ce qu'on a vu face à la Juve? Alors, plutôt sur la première période face à la Juve, parce qu'en deuxième, c'était beaucoup plus compliqué et ça a surtout subi. Alors forcément l'adversité est moindre, donc là du coup Lyon était beaucoup moins amené à chasser, beaucoup plus amené à construire, mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'utilisation du ballon?
Et justement face à la Juve, je n'avais vu que la deuxième. Mais bref,
ah bah c'est exceptionnel,
pratique,
donc
c'est
qu'est-ce
pratique.
Que tu as vu en tout cas sur ce
voilà.
match?
Voilà, on va faire ça comme ça. Déjà, oui, la disponibilité de Guimarèche, parce que évidemment, moi je l'avais vu face à la Juve dans une situation où l'OL n'avait absolument pas le ballon. Là, face à Saint-Etienne, qui rendait la balle, comme tu le disais, avec les 5 passes en 7 minutes, là, l'OL avait le ballon, donc c'était l'occasion de voir où est-ce qu'il allait apporter. C'est vrai que sur les sorties de balles, il a une disponibilité assez impressionnante. Qui permet de se substituer à des défenseurs qui prendraient pas forcément l'initiative de relancer. Donc ça c'est un point très positif. Et ensuite dans le camp adverse, c'est quelqu'un donc déjà dans son propre camp, c'est un 6 qui se montre et qui va demander la balle. C'est l'opposé de ce que faisait Touzard qui restait toujours planqué derrière les attaquants adverses. Et dans le camp adverse, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à franchir et à offrir des solutions entre l'attaque adverse et le milieu de terrain, voire à s'infiltrer un peu plus haut s'il y a une combinaison qui le permet, pour ensuite ouvrir en profondeur. Généralement, il aimait beaucoup ouvrir côté droit vers Traoré ou Dubois sur la première période. Donc vraiment un 6 très 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 intéressant, dans le sens où c'est quelqu'un, tu le vois très vite, qui voit le jeu 2 voire 3 coups à l'avance. C'est-à-dire il sait qu'il va prendre la balle, il va solliciter un appui. Au moment où il sollicite l'appui, il sait déjà où est-ce qu'il va se déplacer pour la redemander, et il sait même déjà où est-ce qu'il va la donner après si la balle lui revient. Donc t'es vraiment sur un joueur qui pense beaucoup plus vite que tout le monde, et ça forcément ça transforme une équipe. Et pour la comparaison, j'avais parlé lors de mon premier voyage avec Djibouti d'un joueur érythréen qu'on avait remarqué au CKFA, qui avait cette qualité-là, évidemment à un niveau moindre, Mais c'est le genre de qualité qui saute aux yeux quand tu regardes 22 joueurs sur un terrain et qui fait immédiatement sortir un joueur du lot.
Qu'est-ce qu'il a de différent, Raphaël, par rapport à un Camavinga ou un Cacré, si on reste sur le contexte lyonnais, qui sont des joueurs qui, dans le championnat de France, alors sur un volume de jeu et de matchs moindre concernant Cacré, mais qui ont pu aussi montrer cette capacité à demander les ballons, à sortir du bloc adverse et à faire avancer le jeu. Est-ce que c'est une plus grande disponibilité, une plus grande maîtrise technique, une plus grande palette, ou alors est-ce que c'est entre guillemets la même chose? Et c'est simplement que, je sais pas, il peut y avoir l'attrait de la nouveauté concernant Guimarães, qui avait un petit peu moins ces dernières semaines concernant Cacré.
Sur la comparaison avec Camavinga, je pense qu'il joue pour l'instant, en tout cas à voir l'évolution de Camavinga, beaucoup plus vers l'avant que Camavinga le fait. J'aime bien ce que fait Camavinga, mais c'est quand même un jeu plus en contrôle, plus sécuritaire que ce que ne peut faire Guimarães, qui va tenter des passes à l'intérieur, qui va tenter des appuis soutiens, des appuis remises.
C'est très latéral,
qui va trouver des joueurs lancés.
Camavinga, c'est sur la largeur, Camavinga, il utilise toute la largeur, mais c'est très latéral. Lui, ouais, c'est vraiment vers l'avant.
Alors la différence avec Cacré est moindre. Peut-être qu'il est plus en mouvement et va plus de me faire du donner, redemander dans un espace un peu plus libre, un peu plus avancé dans le terrain. Mais je pense que des images qu'on a vues de Cacré jeune et de ce qu'on a vu en pro, c'est quand même deux profils qui se ressemblent pas mal et qui peuvent compliquer du coup l'intégration de Cacré dans l'équipe. À moins qu'il ne prenne la place de Touzard quand Touzard partira, mais tu peux... Aouar Guimarães, ça marche. Est-ce que Aouar Guimarães Cacré, ça marcherait encore mieux, ou est-ce qu'il y aurait un petit peu de redondance à voir? Ça peut quand même être très sympa à voir jouer, tout en sachant que tu as aussi derrière des Jean Lucas, des Renan Dalit qui vont revenir, des joueurs comme ça qui peuvent prétendre à une place au milieu de terrain. Mais là, je pense que ça ressemble beaucoup plus à Cacré que ça ne ressemble à Camavinga. À voir aussi comment il va être quand il va devoir défendre peut-être des plus grands espaces contre une équipe capable de ressortir. Parce que là, la Saint-Etienne, des 45 minutes que j'ai vues, c'était assez dramatique dès que ça avait le ballon. Et pourtant, ils ont eu quelques occasions. Et puis aussi, à le voir aussi quand il va être agressé, je l'ai trouvé un petit peu lent dans sa gestuelle quand il est pressé par un joueur rapide, genre Bouanga, où parfois il a un peu de mal à changer rapidement d'orientation son corps, même s'il est capable de mettre son corps entre le ballon et le joueur, et du coup souvent il obtient des fautes où il tombe pour se protéger. Mais voilà, c'est quelques questions qui demeurent sur lui, même si dans la sensibilité foot et la vision du jeu, comme l'a dit Flo, avec 1, 2, 3 coups d'avance, ça fait beaucoup de bien à Lyon et au championnat français.
Florent, est-ce que tu vois beaucoup de joueurs de ce profil-là dans le championnat de France? Est-ce que Lyon a vraiment trouvé la perle rare, ou c'est plus facile de passer, alors pas forcément après Cacré, si c'est le même type de joueur, mais passer après Touzard, qui a quand même pas mal frustré les masses pendant de longs mois?
Non, je pense qu'il est assez unique aujourd'hui dans le championnat. Après, ce sont ses premiers matchs. Il était, comme l'a dit Raph, dans une config quand même face à Saint-Etienne, où il n'était pas vraiment surveillé, et les rares fois où il a été pressé, il a peut-être été un peu en difficulté. Donc à voir sur la durée, évidemment, parce que là c'est son troisième match du coup, puisqu'il avait joué un petit peu contre Metz, il me semble. Donc à voir sur la durée, mais c'est vrai que cette intelligence de déplacement, cette disponibilité et aussi cette justesse technique, parce que je crois qu'il termine à plus de 90% de passes réussies, vu le volume qu'il a eu, puisqu'il a dépassé les 100 ballons touchés, ça reste d'une propreté assez remarquable. Donc pour toutes ces raisons-là, non, ça en fait un joueur assez unique, et c'est vrai que le fait de le mettre à ce poste de numéro 6, ça le rend assez, je vais me répéter, mais unique dans le championnat aujourd'hui.
Raphaël, t'évoquais tout à l'heure la possibilité qu'on puisse, pourquoi pas, remplacer Touzard par Cacré pour avoir vraiment trois joueurs de contrôle. Est-ce que là, comme ça, alors on est vraiment sur du foot fiction, tu penses que ça ferait encore passer un cap à cette équipe-là quand elle affronte des adversaires comme Saint-Etienne qui ne sont pas forcément aptes ou venus pour jouer au foot? Ou est-ce que malgré tout, Touzard rapporte une variété qui permet d'éviter à Lyon d'être, alors sans forcément être à ce point-là, mais un peu comme le Barça qui a tellement joué hors de contrôle que finalement il n'y a plus grand monde pour faire autre chose et pour aller faire ses courses?
En tout cas, ce qu'a apporté Touzard sur ce match, c'est pour ça que la comparaison avec Thiago Motta-Verratti pour le Aouar Guimarães est encore plus intéressante. C'est que Touzard a apporté beaucoup de choses sans ballon, alors que d'habitude, justement, c'est ce qu'on lui reproche quand il est derrière, enfin plus bas sur le terrain, de ne pas être capable de se mettre en mouvement et de se rendre disponible. Là, c'est pas du tout les mêmes déplacements quand il est relayeur, c'est beaucoup plus vertical. Dans la profondeur, il a fait quelques appels, il a un ballon dans la surface où il centre beaucoup trop fort d'ailleurs, et ça va au 8e poteau. Mais on l'a souvent vu se déplacer dans la profondeur, être dispo, porter dans la surface. Je crois qu'il marque un but refusé en deuxième, peut-être. Je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième, je ne me rappelle plus le but qu'il marque et qui est refusé par la VAR. Mais voilà, c'est pour ça que là, pour le coup, quand tu as autant de contrôle avec Awar et Guimarães, lui peut devenir intéressant dans un rôle vraiment de voilà, un peu le mec qui va courir partout, pas toujours avec organisation et pas toujours en voyant 2-3 coups à l'avance. Mais vu que derrière lui, il y a deux mecs qui s'occupent de tout le contrôle, lui va pouvoir cavaler. Et l'ajout de Cacré ou non, ouais, c'est vrai que ça dépend aussi du contexte. Si tu sais que tu vas partir sur un match de transition, ou peut-être que Awar Guimarães, ils vont devoir défendre des joueurs, un peu comme le match du Real contre le Barça, ils vont devoir défendre des contre-attaques, des transitions comme ça, où ça va vite se projeter. Est-ce que Awar, Cacré, Guimarães, ça va être capable de réagir à ce moment-là? Tu peux aussi te dire qu'avec le contrôle qu'ils vont t'apporter, tu auras finalement peu de transitions à concéder. C'est aussi ta capacité à, si tu mets les trois, à maximiser le contexte, silence l'oiseau, pour que vraiment les trois soient dans les meilleures conditions.
Florent, sur les autres individualités, qu'est-ce que tu veux ressortir, sachant que j'interrogerai Raphaël sur Martin Terrier, son meilleur ami. Du coup, qu'est-ce que tu veux citer? On fera un petit point sur Saint-Etienne après, mais pas trop long, parce que est-ce que ça mérite vraiment un long point, je ne sais pas. Mais pour compléter sur cette équipe lyonnaise qui, si j'en crois ma fiche, était en 4-3-3.
Non, oui, je vais surtout compléter par rapport à ce que Raphaël vient de dire sur Touzard. Le truc, c'est que bon, maintenant il est 8. En effet, on voit des qualités différentes de son côté, de sa part sur le terrain. On le voit dans la surface, etc., etc. Mais est-ce que, alors déjà, par rapport à Cacré, je pense que si Cacré rentre à sa place, il apportera tout autant offensivement et il aura en plus une capacité technique supérieure dans les petits espaces. C'est quand même un joueur qui a, sur les apparitions qu'il a faites, a aussi montré qu'il était capable d'avoir un certain volume de course et de jeu. Donc je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, d'autant plus que si Cacré rentre dans un milieu à 3 avec Awar et Guimarães, peut-être que le joueur qui sera moins dans le contrôle et plus dans la projection, plus dans la présence dans les 30 derniers mètres, ce sera Awar. Et on sait qu'Awar est aussi très bon dans ce registre-là. Donc tant qu'à faire, quitte à envoyer un mec dans les 30 derniers mètres, je préfère que ce sera que ce soit Awar et avoir Guimarães Cacré pour contrôler, plutôt que Touzard et avoir Awar et Guimarães pour contrôler. Il y aura plus d'efficacité, je pense, de sa part. Après,
Tu peux imaginer un René Delaïde comme troisième aussi, ce
oui,
serait intéressant.
C'était surtout lui, mais bon, il est blessé. Mais après, il y a aussi une autre question qui se pose par rapport à Jean Lucas. Est-ce que dans ce poste de relayeur, harceleur et joueur qui se projette dans les 30 derniers mètres, est-ce que Jean Lucas est forcément inférieur à Touzard? J'en suis pas forcément convaincu non plus. Après, le milieu que j'aimerais voir, je l'ai dit depuis que Guimarães est arrivé, c'est Guimarães, Awar et Cacré, voir à quoi ça ressemble déjà. Pour l'instant, on l'a pas vu. Mais c'est vrai que sur le plan des qualités que les joueurs ont montrées jusque-là, je vois pas pourquoi Jean Lucas serait moins bon que Touzard dans ce nouveau rôle plus avancé sur le terrain.
Après, ce serait logique de la part de Loé, quand même, un moment de, même si Touzard apporte des choses, de passer petit à petit à la suite et de préparer la suite. Que Touzard soit titulaire jusqu'à la fin de la saison, je trouverais ça un peu dommage, parce que tu risques de perdre d'autres joueurs qui sont là pour le long terme.
Par contre, il y a quelque chose qu'il faut lui reconnaître par rapport à d'autres joueurs qui ont été transférés, c'est qu'il ne calcule pas ses efforts quand même. Il y a des joueurs qui ont été transférés et reprêtés dans leur club. On peut notamment penser à Saliba de l'autre côté du terrain, même si je pense qu'il ne fait pas un mauvais match face à, en tout cas pas une mauvaise mi-temps hier, même si je regardais surtout l'OL, je ne vais pas le cacher. Mais la saison de Saliba, après son transfert à Arsenal, cette dernière saison à Saint-Etienne, on est très loin du Saliba de la saison précédente. Non, là, Touzard,
je pense que c'est... Ouais, c'est pour ça qu'il joue beaucoup aussi. Je pense que c'est un excellent joueur pour un entraîneur, tu vois.
Il y a pas de souci.
Un joueur très agréable à entraîner, à coacher, à lui demander des trucs, je pense qu'il l'applique, même s'il n'y arrive pas toujours, mais il essaye, il écoute. Ça doit être une éponge, et du coup, ouais, une éponge qui calcule pas, c'est toujours apprécié par les entraîneurs, même si du point de vue du supporter, de l'observateur, tu te dis, ah ouais, mais moi je suis pas là pour les mêmes choses, quoi. Je l'ai pas à l'entraînement, donc je veux vraiment voir les meilleurs joueurs et le meilleur jeu possible.
Raphaël, c'est un peu private joke, mais qu'est-ce que tu as pensé de Martin Terrier, que tu n'apprécies pas pour des raisons qui te sont propres? Et qu'est-ce que tu as pensé du trio d'attaque, si on élargit un tout petit peu, avec Bertrand Traoré, qui lui aussi peut être frustrant à d'autres égards, et Dembélé en pointe?
Bah, j'ai trouvé Traoré pas mal pour le coup. Je trouvais que même dans les déplacements, il avait été assez intelligent. Il n'est pas resté collé à son couloir. Il s'est montré un peu plus entre les lignes quand Dubois prenait couloir pour ne pas occuper les mêmes zones. Et il a réussi à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu. Il a tenté quelques passes dans la profondeur. Non, je l'ai trouvé pas mal. Après, Terrier, bon, c'est Terrier, quoi. Mais tu vois, c'est l'ailier qui va venir repiquer pied droit, gratter des fautes. Bon, il a une bonne passe, donc il donne une passe D à Dembélé. Mais j'ai l'impression d'en voir 1000 des joueurs comme ça. Et c'est pour ça que c'est pas des joueurs qui me transcendent plus que ça. Tant mieux s'ils fonctionnent à Lyon, mais Terrier, non, tu vois, la dernière fois, on avait le débat Bouanga à Mouma. Bon, voilà, c'est tous des bons joueurs, hein, mais il y en a. Je pense que tu mets n'importe qui à la tête de n'importe quel centre de formation et tu le fais recruter n'importe qui en France. Il fait le tour des terrains un an, il sort plein de joueurs du même profil et bon, voilà, c'est le football d'aujourd'hui. Il y a un ailier qui repique, qui vient sur son pied droit, et soit qui lance dans la profondeur par une diago, soit qui frappe. Bon, bah, ça marche, c'est bien. Est-ce qu'on n'a pas d'autres joueurs à sortir que ça? Et pourtant, je suis sûr qu'il fera une bonne carrière, hein, parce qu'il a des chiffres, il est décisif, il est présent, il a un gros volume de jeu. Mais voilà, ça m'excite pas plus que ça. Voilà, c'est vrai, des joueurs, je sais pas. Je préfère, bon, ça va paraître complètement con comme phrase, être complètement basique, mais je préfère voir des joueurs un peu plus complexes, un peu plus subtils, des Isco dans ces postes-là que 1000 fois les mêmes joueurs, tu vois.
Et ça se trouve, c'est Terrier intéressant, sera... ça, comme phrase. Je préfère voir Isco que Martin Terrier.
Non, mais dans le sens profil différent, tu vois. Alors, après, Terrier, ça se trouve, il pourrait faire la même chose que Vinicius en Real, j'en sais rien, dans un contexte comme ça, t'es lancé en 1 contre 1. Mais c'est pour ça que tu parles souvent du niveau des ailiers, qui est très difficile à juger. Mais même leur style est tellement similaire maintenant, c'est tous à peu près les mêmes, surtout les droitiers, que je ne sais pas quoi penser de ces joueurs-là.
Est-ce que tu as un comparatif pour Martin Terrier plus pertinent que Isco? Pour
non,
toi,
mais...
Martin Terrier, c'est qui? Est-ce que tu as, je sais pas, Kevin Monet-Paquet?
Non, Kevin Monet-Paquet, c'est Asensio. Donc, je ne peux pas le donner à deux joueurs. Non, je sais pas trop, mais... Non, Martin Terrier, c'est un ailier. Non, respect pour dire Kevin, quand même. Non, j'ai pas de comparatif, mais d'ailleurs, une petite pensée pour Asensio, qui est toujours blessé, évidemment. Mais qui, depuis l'évocation Kevin Monet-Paquet, a vu sa carrière plonger un peu plus bas. Et pour le coup, voilà, est-ce que Terrier n'est pas finalement un Asensio droitier? Telle est la question.
C'est pas très gentil pour Asensio, mais on laissera les auditeurs juger. Tu parlais de Kevin Monet-Paquet, enfin, je parlais de Kevin Monet-Paquet, tu as rebondi. C'est l'occasion de parler un petit peu de Saint-Étienne. On parlera donc que de la première période, mais ce qui donne quand même une certaine idée du projet de jeu de cette équipe, parce qu'on l'avait déjà vu sur d'autres matchs face à des équipes supérieures intrinsèquement, notamment Paris, que tu évoquais tout à l'heure, Florent, pendant une discussion de Raphaël. Alors, je sais que tu as surtout regardé Lyon, mais aussi parce que Lyon avait la balle 70% du temps.
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu peux dire de Saint-Etienne, soit sur ses 30%, soit justement sur ses 70%, où il fallait essayer de combler les espaces et de ne pas prendre de but, puisque visiblement c'était la première idée de Claude Puel.
70 et même 80%, je crois, de possession à la demi-heure de jeu à peu près. Il me semble avoir vu passer cette stat. Non, ouais, c'était un match très très compliqué pour Saint-Etienne. De toute façon, ils sont sur une série assez catastrophique. En championnat, et c'est une équipe qui aujourd'hui ils sont combien? Ils sont 16e, 17e? Ouais, c'est ça, 16e.
Ils sont 16 avec 2 points d'avance sur Nîmes, 18e.
Ouais, c'est une équipe qui aujourd'hui joue va clairement jouer sa peau, parce que quand tu regardes par rapport aux dynamiques actuelles des équipes qui les entourent, alors Metz c'est pas forcément énorme, mais Dijon, même s'ils ont pris une volée contre Paris, et Nîmes sont deux équipes qui fonctionnent, qui tournent beaucoup mieux que Saint-Etienne ces derniers temps, qui proposent sur le terrain beaucoup plus de choses que Saint-Etienne, même s'ils sont limités par des individualités qui sont peut-être un cran en dessous. Mais Saint-Etienne à Lyon et n'a pas forcément en plus profité du derby pour essayer d'avoir un surplus d'engagement, d'intensité, d'envie, etc., qui peut être utile dans ce genre de rendez-vous et qui peut permettre de redémarrer quelque chose. C'est une équipe qui s'enfonce depuis pas mal de temps maintenant, et il n'y a rien dans le jeu, à part peut-être une ou deux individualités comme Bouanga, qui arrive à être décisif de temps en temps, malgré le marasme collectif. Franchement, il y a... Heureusement qu'Amiens et Toulouse sont un peu lâchés aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai danger de descente aujourd'hui pour Saint-Etienne. En tout cas, il y a un vrai danger de barrage, ça c'est clair.
Raphaël, moi ce qui m'étonne un peu, c'est que quand je vois cette équipe, je me dis, tiens, le fait de mettre un double pivot Cabaye-Mvila au-delà de rendre un hommage à l'année 2012, tu te dis, ah tiens, ça va peut-être avoir un tout petit peu moins de volume de jeu, mais il y aura une capacité à ressortir les ballons sous pression. Or là, c'était très compliqué d'aligner plusieurs passes. Et tu te dis, si c'est pour faire ça, alors je ne sais pas s'il y a énormément de profils, parce que là, quand je vois sur le banc, je ne vois pas trop quels seront les mecs qui ont un énorme volume de jeu que tu pourrais mettre comme ça en double pivot. Mais c'est-à-dire que si tu as des plutôt bons manieurs de ballon, même s'ils n'ont plus leur forme d'antan, et que tu n'arrives pas à ressortir des ballons, qu'est-ce qui te reste, quoi? C'est ça qui m'embête un peu. En fait, je vois pas trop quel sera l'angle éditorial, le choix qui sera fait pour sur la qualité individuelle, sur Bouanga, en balançant des centres, j'en sais rien. Mais là, comme ça, j'ai l'impression que tu vas un peu devoir t'adapter match par match et espérer que ça passe, quoi.
Ouais, mais il y a même un gros écart tout simplement entre ce que dit Puel ces derniers temps dans ses interviews et ce qu'il fait sur le terrain. Alors, il est arrivé il y a quelques mois, mais c'est toujours. Enfin. Quitte à perdre et à être dominé, autant essayer quand même des choses un peu plus variées que dès qu'il y a Cavalli ou Mvila récupère le ballon, une longue course de Diony ou de Bouanga et on les lance dans la profondeur en 1 contre 2 ou 1 contre 3. Là, pour le coup, en effet, encore plus dans ce contexte-là, Cavalli et Mvila, ils vont souffrir là, contre des mecs qui ont 10-15 ans de moins, qui sont dans leur prime. Eux, ils sont en bout de course, ils doivent défendre à deux un espace où il y a 3-4 joueurs lyonnais qui viennent avec Touzard, avec Guimarães. Avec Traoré qui vient à l'intérieur, avec Terrier qui vient aussi dans l'axe, ça devient un peu compliqué. C'est, disons, l'écart entre l'intelligence de ses propos et le message qu'il envoie, et dans le jeu, les choses qui sont essayées. C'est toujours difficile sur la carrière de Puel, parce qu'il avait tendance, toi tu l'as connu, à beaucoup romancer son passage à Lille quand même, sur oui. Ses idées de jeu et ce qu'il mettait en place par rapport à vraiment ce qu'on voyait sur le terrain depuis les tribunes. Derrière, à Nice, il fait des super choses. Leicester, il y a des bonnes intentions, mais les supporters se font chier.
Et là, il romance aussi son passage à Leicester. Où, en gros, c'est oui, Rodgers a hérité de mon travail. Il a changé 2-3 trucs, ça fonctionne. Alors effectivement, Claude Puel a changé la mentalité générale. Il y a beaucoup plus de possession ou autre. Mais c'est un peu plus complexe que ça, malgré tout. J'ai posé les jalons, j'ai essuyé les plâtres, j'en ai payé les pots cassés, on m'a viré. Et ensuite, derrière, c'était facile parce qu'il suffisait d'avoir un discours différent sur les mêmes principes. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, malgré tout.
Ouais, voilà, c'est un peu. Bon, disons qu'on dit souvent que les entraîneurs français sont des mauvais communicants. Lui, pour le coup, est très bon dans ses propos. Parce que il reformule très bien ce qui s'est passé. Et là, à Saint-Etienne, malheureusement, la vérité va être beaucoup plus difficile, je pense, à contourner ou à enjoliver. Parce que sur le terrain, c'est quand même très très triste. Et très très passif.
Alors Florent, on va aller pour te tresser des louanges, des lauriers, puisque ton grand débat, le débat que tu faisais avec nous, donc c'était pas un débat national, mais c'était de savoir qui terminerait le plus haut entre Bordeaux et Saint-Etienne. Et visiblement, tu vas gagner ce pari haut la main, puisque Bordeaux est à la fois relativement loin devant, parce que 12-16, bon, c'est pas non plus incroyable au niveau du classement, mais c'est surtout au niveau des points, où là, Bordeaux est à plus 7. Et ça illustre quand même l'évolution de saison parce que, alors, ok, Saint-Etienne a eu des blessures, Claude Puel a écarté pas mal de monde, du coup, il a une matière première qui est moindre maintenant par rapport à il y a quelques mois, mais il faut avoir quand même parfois un petit peu de mémoire et il faut se souvenir que même moi, j'en avais aucune idée de savoir quelle équipe allait terminer le plus haut et que maintenant, ça paraît presque évident de se dire, bah oui, Bordeaux va, pourquoi pas, si ça tourne bien, essayer de gratter la 7-8e place. Alors que, voire maintenant un tout petit peu plus haut, alors que Saint-Etienne se bat pour le maintien, et c'était loin d'être écrit il y a quelques mois. Ça veut dire aussi quelque chose, alors du travail bordelais peut-être, mais aussi de l'évolution de la saison stéphanoise, qui, alors ça paraît presque acquis, oui, bon ben voilà, ça joue le maintien, alors qu'au départ, ça devait pas du tout, quoi. C'était, même beaucoup de spécialistes disaient que le mercato avait été très bon et que l'effectif était très intéressant.
Oui, alors ça, la comparaison Bordeaux-Saint-Etienne, elle venait aussi d'un take que j'avais fait en début de saison sur le mercato stéphanois, justement, et sur le fait que prendre, du coup je vais le refaire maintenant, que prendre autant de joueurs qui ont été bons en 2012-2013, mais qui surtout ont une trajectoire de carrière déclinante et qui n'ont plus forcément d'objectif, c'est-à-dire que quand tu prends un Kazri ou quand t'ajoutes Cabaye, Mvila, etc. sont des joueurs qui sont déjà allés à l'étranger, qui ont déjà fait leur carrière à l'étranger et qui reviennent en Ligue 1 et qui n'ont pas forcément d'ambition de repartir et qui n'ont pas forcément d'objectif individuel à aller chercher. Pareil pour Boudbouze aussi qu'ils ont récupéré et le fait d'additionner
Debuchy aussi
en effet, Kolodia Jack, enfin voilà. Là, on en a cité quelques-uns qui font quand même qui ont beaucoup de temps de jeu dans cette équipe. Et le fait de construire une équipe avec ça, pour moi, en Ligue 1, tu peux pas aller très loin. Parce que, alors certes, c'est gênant d'avoir des jeunes joueurs qui vont considérer ton club comme un tremplin. Néanmoins, si tu n'as pas ces joueurs qui ont cette motivation individuelle de vouloir se faire remarquer pour aller taper plus haut ensuite, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir des résultats tout simplement dans ce championnat. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une surprise si le meilleur joueur stéphanois cette saison, c'est Denis Bouanga, qui est peut-être la seule recrue de Saint-Etienne cette saison, qui avait le profil du mec qui sont allés chercher un peu plus bas et qui aspire évidemment à mieux que Saint-Etienne peut-être dès l'été prochain ou dans deux saisons. Le fait que ce soit lui le meilleur joueur de la saison stéphanoise, à mon sens, c'est pas une surprise. Et ça rejoint ce que je dis sur les autres, qui, pour la majorité, sont aujourd'hui plus des problèmes que des solutions pour l'équipe.
Parce que c'est vrai que dans la notion de tremplin que tu évoquais, en tant que grand fan de saut à ski, je peux le dire, il y a aussi ce côté jump, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas, quand t'es sur le tremplin, tu descends pas et tu te laisses pas porter, il faut que tu donnes une impulsion. Donc, ok, on peut considérer que les clubs tremplin, il peut y avoir, je ne vais pas dire un mépris, mais un attachement de couleur qui est moindre parce que tu viens là en sachant que c'est qu'une étape. Alors déjà, il y a beaucoup plus de clubs qui eux-mêmes se définissent comme des tremplins, donc du coup, c'est un petit peu moins grave quand les joueurs le disent ou le pensent parce que les clubs eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont que des étapes pour certains joueurs. Mais dans tous les cas, si tu veux aller plus haut, effectivement, il faut que toi-même, tu donnes une impulsion et que tu montres que tu es capable d'aller plus haut. Or là, je sais même pas, j'ai même pas de bonne comparaison. Mais ouais, comme tu disais, par contre, Bouanga qui doit avoir 25 ans, je pense. Sinon, le reste, tu vois, même Trauco qui fait sa première en Europe, il a 27 ans. C'est bien, mais je suis pas sûr qu'il. Pour lui, l'objectif, c'est peut-être ça, c'est peut-être Saint-Etienne. C'est-à-dire, s'il peut gratter un peu plus, tant mieux. Mais genre, même le mec que tu vas chercher de l'étranger, bon, c'est pas l'échelon inférieur, mais ça peut quand même quelqu'un qui a le profil. Lui, je vais pas dire qu'il est en bout de course, mais déjà, il a une petite carrière derrière lui, donc c'est.
Est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que Christophe, petit quiz, tu peux me dire qui est le joueur le plus décisif de Saint-Etienne cette saison par rapport en proportion avec ses minutes jouées?
Oui, ben, il faut forcément dire que c'est Romain Mouma.
Bah, bien sûr. Avec 6 buts et une passe D en 867 minutes, décisif toutes les 124 minutes. Et le deuxième, donc, c'est Bouanga, 9 buts et 3 passes D en 1957 minutes, décisif toutes les 163 minutes. Et bon, pourquoi les deux ne pourraient pas jouer ensemble? Voilà, profitons de ces deux monstres.
Ouais. Voilà, après là Mouma est blessé, donc
il est tout le temps blessé, c'est le problème de ce joueur.
Ouais, donc c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des bonnes stats par 90 minutes quand tu joues à chaque fois 90 minutes, c'est-à-dire tu fais un but sur ton match de 90 minutes, on te voit plus pendant 6 mois, tu restes celui qui par 90 a le plus fort taux de buts et de passes dé. Mais bon. Merci messieurs pour cette analyse du match entre Lyon et Saint-Etienne. On va faire un vrac commun sur l'idée de Florent qui concerne le match entre Hoffenheim et le Bayern. Et pas pour parler du sportif, Florent, où il y a une victoire 6-0 du Bayern qui aurait peut-être pu être encore un petit peu plus lourde si jamais le match s'était disputé sérieusement jusqu'au bout. Mais pour parler un petit peu de cette fin de match où plus personne n'a joué, le match a été arrêté.
Ouais.
Et du contexte général du pourquoi du comment.
Alors oui, on va rapidement évoquer le contexte. Donc match arrêté, il devait rester un quart d'heure à jouer, Christophe, je pense. 78e, 79e minute.
Ouais, peut-être même un petit peu avant. Mais oui, c'est ça.
Et du coup, c'est les supporters du Bayern qui sortent des banderoles à destination du président de Hoffenheim. Banderoles jugées insultantes, et qui le sont, hein, mais... banderoles, enfin franchement, quand tu vois les banderoles qui ont pu être sorties en France par certains groupes qui sont de ce niveau-là, et c'est vrai qu'en Allemagne, là, ça a fait un scandale incroyable, à tel point que donc l'arbitre interrompt le match, les joueurs du Bayern et l'entraîneur aussi, je crois, Flick, vont voir les supporters, demandent le retrait des banderoles, etc., etc. Bref, ça râle, le match est interrompu, les joueurs reviennent au bout de quelques minutes et décident d'arrêter de jouer, c'est-à-dire que le jeu reprend, mais c'est de la passe à 10. Alors moi j'ai pas vu en direct, Christophe, c'est ça, hein, il se faisait...
Oui, c'est même...
Passe au milieu de terrain.
Oui, mais c'est même de la passe à 10 d'une équipe à l'autre, À un moment, tu as des joueurs qui commencent à faire une brésilienne, ça a deux doigts de faire un tennis-ballon. C'est-à-dire, c'est même pas de la passe à 10 où tu as. Enfin là, c'était un gardien qui faisait une passe à un adversaire qui lui remettait. C'était en gros un échauffement de five où chacun touche le ballon pour, en trottinant. Tu as des mecs qui discutaient sur le bord, enfin sur le terrain entre eux, des joueurs qui rigolaient. J'ai même vu un joueur, je sais plus ce qui c'est, peut-être Gnabry, qui a parlé sans se mettre la main devant la bouche, ce qui est quand même une première dans le foot depuis 10 ans où il ne faut surtout pas lire sur les lèvres. Et un moment où il y a un plan sur un ramasseur de balles qui fait des tours du monde avec un ballon sur le bord du terrain et tout le public l'encourage. Donc c'était assez lunaire.
Ouais. Ouais, et donc le truc encore plus lunaire, c'est que t'avais Rummenigge et Hop, du coup le patron de Hoffenheim, qui était au bord du terrain avec tout le monde qui était là pour rendre hommage en fait au président d'Hoffenheim sur ce dernier quart d'heure. Et en fait là où le malaise on va dire s'amplifie, c'est quand tu sais que quelques semaines plus tôt il s'est passé c'est un défenseur du Hertha Berlin dont malheureusement j'ai perdu le nom. Qui a évidemment reçu des insultes racistes et qui a été expulsé par l'arbitre à cause de ça, en tout cas dans la foulée de ça. Quand tu sais ce qui s'est passé avec Marega aussi, du côté, c'était face à Guimarães, il me semble,
ouais.
Et que tu vois la réaction des joueurs, notamment des coéquipiers de Marega qui viennent. Qui veulent tout faire pour ne pas qu'ils sortent du terrain. Je crois que c'est Otavio ou Oliver Torres, je ne sais plus, qui a deux doigts de s'embrouiller avec lui parce que Marega ne veut pas rester sur le terrain.
Je crois que c'est Corona. Torres est maintenant du côté de Séville. Enfin, peu importe. Mais après, bon, ils disaient tous que c'est... genre oui, il ne faut pas leur donner raison, etc. Mais on était dans une logique totalement inverse dans tous les cas. Et juste pour préciser, c'était Jordan Turani... Torunariga, je vais y arriver, qui était visé par les chants, les gestes racistes du côté de Schalke.
Oui, au moins maintenant, lors de la prochaine insulte raciste, peut-être que les gens auront l'idée de faire ça, les joueurs. Mais quand t'entends notamment, après le match, Rummenigge dire à propos des banderoles, il faut mettre fin à ce genre de comportement en tribune, c'est un scandale, etc., que t'as Manuel Neuer qui dit ensuite en zone mixte, qui tient un propos du genre il fallait marquer le coup, il fallait, je sais plus s'il dit rendre hommage ou en tout cas reconnaître l'apport de Hopp dans le football allemand ou des choses comme ça. Il fallait faire une démonstration, en parler dans le couloir avec nos adversaires de Hoffenheim, etc., etc. Et que tu arrives à ce résultat pour un milliardaire alors que tu n'arrives pas du tout aux mêmes choses quand tu as tout simplement des insultes racistes, ça devient très très gênant et vraiment. Voir notamment les interviews, je vous les conseille si vous arrivez à les capter sur Twitter. Je les ai, au pire, j'ai retweeté le reportage d'un média allemand. Il y a vraiment un sentiment de malaise en fait qui s'installe quand tu compares les deux situations.
Oui, et puis le fond qui peut s'entendre du on tient à ce qu'il n'y ait pas d'actionnaire majoritaire, etc., que les fans restent proprio et que. Tu peux dire que oui, un peu comme Red Bull, ils ont un peu contourné le système pour pouvoir profiter de ça, injecter son argent. Il a pas non plus cassé complètement tout le modèle, il a un peu contourné. Ça peut être discutable, mais voilà. Et moi, c'est historique, mais t'as quand même un club qui s'appelle Bayer Leverkusen. Dans ton championnat, Bayer, c'est quand même pas l'entreprise la plus clean au niveau historique. Alors, je sais bien que tu peux différencier ça, mais ça m'embête un peu quand t'as des privilèges qui naissent d'un truc un peu historique, d'une situation. Bon, c'est comme ça, et que t'as Volkswagen et Wolfsburg, etc. Enfin, tu peux plus faire maintenant ce que t'as fait à l'époque parce que les salariés de Bayer ont créé le truc il y a une centaine d'années, alors que maintenant tu peux plus forcément injecter de l'argent. Je comprends que tu veuilles pas forcément toucher au modèle et il y a certains trucs des fans allemands, notamment protester contre les matchs le lundi, qui est quand même assez intéressant et qui permet à ce championnat d'être extrêmement suivi, même dans les divisions inférieures. T'as un nombre de supporters qui est vraiment sans commune mesure et que tu peux avoir en France notamment. Mais bon, là, Hoffenheim en première division depuis 10 piges, Est-ce que ça méritait vraiment des banderoles comme ça? Je ne sais pas, pas non plus d'une intelligence folle. Par contre, effectivement, la réaction derrière est quand même extrêmement spéciale. Et j'espère que ça va pas. J'espère que ça va créer un précédent dans le bon sens et pas dans le mauvais. À savoir que tu pourras justement t'inspirer de cette attitude-là de bon, on refuse de jouer quand il y a un incident qui le mérite, que ça va, les incidents qui le méritent vont s'appliquer à des situations a priori infiniment plus graves au niveau sociétal. Qu'au contraire, t'auras pas le truc du bon, on veut que le match s'arrête, alors on va insulter le proprio adverse, quoi.
Ouais, et là j'ai retrouvé ce que dit Neuer. Il dit on en discutait pendant la pause, on a discuté avec les joueurs de Hoffenheim, le staff. Je l'ai en direct là, donc. Et on a décidé de terminer le match comme ça, voilà. Après, défenseur de Hoffenheim qui fait c'était un match historique, on a fait un exemple. Donc en gros, c'est vraiment si tu vois pas ce qui se passe avant et que t'as juste les déclats en zone mixte, tu peux imaginer qu'ils ont fait ça en effet en réaction à un acte, à des insultes racistes vis-à-vis d'un joueur. Et non, c'est pour une banderole à destination d'un président. C'est franchement, quand tu vu de France, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les banderoles qu'il a pu avoir par le passé et pour tous les présidents possibles. C'est assez surréaliste même comme situation, je trouve.
À noter que, alors j'ai vu qu'hier ça a discuté de ça, j'ai pas vu quelle était la position définitive d'Opta, mais là je vois que sur WhoScored ça annonce 90%, 92 même % de passes réussies pour le Bayern, donc je pense qu'ils ont pas forcément pris en compte la fin de match parce que les passes étaient réussies mais elles étaient dans les pieds de l'adversaire et c'était un peu n'importe quoi.
Alors
donc,
j'ai regardé.
Ah, justement, t'as regardé.
J'ai regardé et il n'y a que les touches de balle qui sont prises en compte. Donc il y a eu 80 touches de balle pour Hoffenheim et 76 pour le Bayern. Mais il n'y a pas de détails ensuite sur le reste. Et donc c'est à partir de la 78e minute jusqu'au coup de sifflet final.
Voilà. Merci Florent.
Pour finir sur une note chiffrée.
Et on passe au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris, où je reste sur un bon week-end, puisque j'ai passé mes deux cotes qui étaient entre 3 et 4, donc c'était plutôt intéressant, le 0-0 à la mi-temps, sur le Classico et la victoire de Rennes avec deux buts d'écart face à Toulouse. Alors, paris qui me semblait bien payé sur le moment. Pour une fois, je suis content, les deux se sont alignés, ma vision du truc et le résultat sur le terrain. Je ne sais plus qui était mon binôme de paris tenté la semaine dernière.
J'ai passé un pari, le moins de 1,5 but sur Amiens-Metz, je crois.
D'accord, donc tu es en positif également sur ton week-end. Je pense que ça va être une cote supérieure à 2. C'est assez intéressant. On va espérer que tu continues sur cette lancée, mon cher Raphaël, avec ton premier pari qui concerne Reims-Brest.
Oui, bah, je vais rester sur un pari à peu de buts, sachant que j'avais misé sur Brest. C'était mon autre pari sur le dernier week-end. Ils ont perdu contre Angers, donc ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais miser sur le moins de 1,5 buts entre Reims et Brest, puisque Reims est à la fois une des meilleures défenses de Ligue 1 et une des attaques les plus timides. Et Brest a du mal à l'extérieur à marquer beaucoup de buts. Donc je pars sur un moins de 1,5 but et je crois que c'est à 2,60. Alors il reste du temps hein, jusque-là, puisqu'on on enregistre lundi et le match est samedi. Donc ça se trouve, il va y avoir des blessures, c'est pas des retours qui vont un peu changer la donne et donner des buts. Mais je me dis quand même que Reims, à domicile, c'est la victoire par un but d'écart qui est souvent privilégié, depuis d'ailleurs la remontée en Ligue 1, c'est un score qui leur va bien. Ils ont battu Rennes à domicile 1-0 récemment, ils avaient avant ça fait un partout contre Nice, ils avaient perdu 1-0 contre Metz, un partout contre Lyon. Voilà, il y a beaucoup de matchs à un but, deux buts maximum. Donc là, le moins de 1,5 à 2,60.
Et on a noté le retour de Zanelli qui a joué quelques minutes pour Reims, à voir comment ça va se passer, son duo avec la pépite El Bilal Touré. Ton deuxième match, c'est sur Lille-Lyon, le choc.
Ouais, là, je m'emballe. Alors Lille n'est pas mauvais ces derniers temps, là, ils se sont bien remis au classement. Bon, ils ont battu Nantes et Toulouse, ce qui n'est pas forcément un exploit vu les formes des deux équipes. Mais je me dis que Lyon, avec son nouveau milieu de terrain, avec Guimaraes, avec cet élan depuis la victoire contre la Juve, va enfin battre un vrai gros, parce que Saint-Etienne ne peut pas être considéré comme ça, il faut le dire, et la Juve c'était dans une autre compétition, un vrai gros en Ligue 1, ça ferait du bien à Rudy Garcia, ça ferait du bien à Lyon aussi, qui du coup pourrait revenir à très peu de points d'un concurrent pour le podium, puisque 6 points séparent les deux équipes à l'heure actuelle. que c'est un match très important pour Lyon. Une victoire à l'extérieur de Lyon à 3-30. Ça me... Alors, dit comme ça, et vu le calendrier de Lille récemment, ça explique aussi cette cote de 3-30, alors que je pense que vu les forces en présence, Lyon n'est pas forcément inférieur à Lille. Donc je pars là-dessus, et j'espère que ça va le faire d'ailleurs, parce que pour le podium, ce serait intéressant de voir ce Lyon-là re-rentrer dans la bagarre, surtout vu l'effectif, ce serait intéressant de les voir quand même disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine, et si c'est pas la Ligue des Champions, au moins la Ligue Europa.
Une argumentation de poids, Raphaël, qui
bah comme souvent,
absolument pas convaincu.
C'est quand j'argumente le moins que ça marche le mieux, donc je n'argumente plus du tout.
Ouais, c'est une belle philosophie qui résume un petit peu ton projet éditorial dans la vie. Florent, également des paris Ligue 1. Le premier, c'est sur... on m'annonce un OL-PSG.
Oui, Coupe de France.
Ah oui, Coupe de France. J'avoue que je n'ai absolument pas suivi qu'il y avait de la Coupe de France cette semaine, soyons honnêtes.
Ce mercredi ou ce mardi, je ne sais même plus d'ailleurs. Mais oui, Coupe de France, donc Lyon-PSG. D'ailleurs, c'est deux paris qui vont concerner les adversaires du PSG cette semaine. Donc Lyon en championnat, en Coupe de France, évidemment. Et ensuite, ce sera Strasbourg.
Donc c'est mercredi.
Ouais, 21h10.
Mercredi au bel horaire de 21h10.
Faut marquer le coup peut-être, je ne sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est sur l'OL face au PSG et c'est sur un buteur et c'est Moussa Dembélé. Alors pourquoi Moussa Dembélé? Pour plusieurs raisons, mais la principale c'est que Paris m'a l'air à nouveau assez friable sur coup de pied arrêté. Ça s'est vu notamment face à Bordeaux. Lors du 4-3 improbable où Bordeaux marque par deux fois sur coup de pied arrêté. Bon, une fois c'est grâce à Wang et la deuxième fois c'est aussi bien aidé par Sergio Rico qui dégage sur Pablo qui marque. Mais l'idée c'est de partir sur un coup de tête de Dembélé comme il l'a mis d'ailleurs pour ouvrir le score face à Saint-Etienne. Un coup de tête sur un coup de pied arrêté, je ne sais plus qui le frappait, mais il était très bien tiré et je me dis que face à Paris et un PSG pas forcément très souverain dans ce domaine-là ces derniers temps, je me dis qu'il est capable de remettre un coup de tête. Donc, et en plus, il peut marquer aussi de pas mal d'autres manières, Dembélé. Donc voilà, cote à 3, en espérant qu'il prenne un centre ou un corner de la tête pour mettre un but pour l'OL. Après, je ne sais pas si ça suffira pour aller en finale. Mais je pense que lui, il peut marquer. Et pour les plus joueurs ou les plus curieux, je suis aussi allé voir quelles étaient les cotes d'autres joueurs susceptibles de placer leur tête face au PSG sur un corner ou un coup de pied arrêté. Touzard est à 13, Andersen est à 12, Marcelo est à 15 et Denayer est à 20. Donc si vous êtes joueur, vous avez peut-être une cote à choper là, parce que les coups de pied arrêtés risquent d'être très importants pour les Lyonnais face au PSG. Deuxième pari, donc, face à Strasbourg.
Vas-y, bah autant relance-toi.
Voilà. Face à Strasbourg, ça sera le dernier match, c'est samedi en fin d'après-midi, il me semble que c'est le match de 17h30. C'est assez simple, hein. Strasbourg à domicile n'a perdu jusque-là que face au gros, puisqu'il n'y a que Lyon et Lille, il me semble, qui sont allés gagner là-bas depuis le début de la saison. Donc c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien. Le PSG, certes, est le plus gros club du championnat. Néanmoins, le PSG a surtout une échéance. Déjà cette semaine, ils ont une première échéance, c'est la demi-finale face à l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, ils auront évidemment leur match retour face à Dortmund le mercredi suivant. Donc je pense qu'ils n'auront pas forcément la tête à ce match. Je pense que si Tuchel veut faire tourner son équipe ou veut reposer certains avant Dortmund, je pense que c'est ce match-là qu'il va un petit peu, prendre par-dessus la jambe, mais pas loin. Donc faire l'impasse, voilà, c'est mieux de dire faire l'impasse. Donc l'idée c'est de dire que Strasbourg va faire quelque chose face à ce PSG-là, pas forcément très concerné, comme Amiens avait réussi à faire un 4-4 improbable en menant 3-0 ou 3-1 à la mi-temps et en se faisant remonter juste sur des coups de pied arrêtés justement. Je me dis que Strasbourg est capable de gagner ce match, mais vu que je ne suis pas totalement sûr de mes appuis, je vais jouer Strasbourg vainqueur, remboursé si égalité, et la cote est à 3. Donc voilà, en imaginant que Paris fasse un petit peu l'impasse sur ce match, soit pas à 100% concerné, pense déjà beaucoup à Dortmund, ou se remette aussi de sa victoire face à l'OL et que du coup Strasbourg en profite pour prendre en espérant les 3 points et sinon on assure en se faisant rembourser la somme initiale.
C'est bien noté, merci Florent. Quel est le programme des prochains jours?
Alors, le programme des prochains jours, il est à faire encore, il n'est pas totalement fait, mais dans l'idéal, ce mercredi, on va ouvrir la saga consacrée à l'Euro 2012 avec l'épisode 1, donc qui sera une replongée dans le contexte de l'époque, les buteurs, les champions, les vainqueurs de Ligue des Champions, etc., etc. Où on en était aussi, nous, de notre rapport au football, même si 2012, c'est... C'est plus très loin de la situation actuelle. On était juste un peu plus jeune, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est mercredi. Et si on est efficace chacun de nos côtés respectifs, peut-être que vendredi, il y aura déjà l'épisode 2 consacré au premier tour de l'Espagne, donc vainqueur de l'Euro 2012, qui arrivera en fin de semaine. Donc voilà, ça dépendra si on a tous le temps de regarder les trois matchs. Espagne-Italie, Espagne-Irlande et Espagne-Croatie, il me semble, les trois matchs de poule des Espagnols lors de 7 euros.
Et donc gratuit, on revient la semaine prochaine, début de semaine
Et
prochaine.
gratuit, oui, ben retour la semaine prochaine avec une double dose sans doute la semaine prochaine puisque va y avoir le retour de la Ligue des Champions. Donc ouais, ça sera sans doute fin de semaine prochaine, à moins qu'il y ait un match incroyable qui se passe à un moment donné dans la semaine. Ça peut arriver peut-être, hein. Il y a un Lyon-PSG, pourquoi pas. Il peut se passer des choses improbables mercredi soir. Mais sinon, oui, on reviendra uniquement la semaine prochaine pour sans doute une double session d'épisodes, puisque retour de la Ligue des Champions.
Ça marche. Merci Florent. Merci mon cher Raphaël également d'avoir été présent.
Merci Christophe.
Et puis une bonne semaine à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.
Salut.
Ciao.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.